Aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de l'Utah, il y a une prison où les livres les plus sanglants, les plus brutaux sont autorisés à lire, mais il y a cependant deux livres qui sont interdits. Le premier s'intitule Les 48 lois du pouvoir et le second L'art de la séduction. Les deux livres sont écrits comme par hasard par Robert Greene, qui est le monsieur qui a écrit aussi un livre que vous connaissez très bien, Les 33 stratégies de la guerre. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à votre émission L'Afrique contre-attaque, une autre interlude aujourd'hui, pour faire un résumé un peu de ce que nous avons appris sur la vie de Mountu Hotep. Ça ne sera pas suffisant évidemment, c'est un personnage que nous retrouvons certainement encore plus tard car il a encore beaucoup à nous enseigner, nous avons encore beaucoup à apprendre de cette épopée. Mais nous allons ici faire une sorte de résumé, une sorte de pause avant de passer au prochain sujet ou thème pour avoir une réflexion sur ce que nous avons dit au cours de la précédente série sur Mountu Hotep, sa vie, son pouvoir. Nous disions donc que dans l'état de l'Utah, il y a deux livres interdits, à savoir les 48 lois du pouvoir et l'art de la séduction. Pourquoi ? Alors que d'autres livres beaucoup plus sanglants, beaucoup plus explicites par exemple, des romans, sont permis pourtant et même encouragés à lire, comme Game of Thrones par exemple, ou A Time to Kill de John Grisham, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, ces deux livres sont interdits. Pourquoi ? Eh bien, les responsables se défendent en disant que ce sont des livres qui amènent à la manipulation et ce ne serait pas intéressant que des prisonniers aient ce genre d'armes en main. Ce qui est intéressant, justement, c'est de se rendre compte que ce livre, par exemple, Les 48 lois du pouvoir, ce n'est pas tellement un livre qui vous enseigne à comment avoir le pouvoir, mais c'est plus comment manipuler le pouvoir, comment actionner ou activer les leviers du pouvoir qui vous amènent à manœuvrer les choses autour de vous, à manœuvrer votre environnement. Idem pour le livre L'art de la séduction. Il est intéressant de se rendre compte aussi que dans ce milieu carcéral, emprisonné, on refuse à ces personnes le droit justement ou la possibilité d'avoir un outil qui leur permettrait de pouvoir organiser leur environnement ou du moins avoir le levier du pouvoir, si je dois me répéter. Alors il serait donc intéressant de se rendre compte qu'en Afrique, où les pays sont sous la tutelle, sous le joug de puissances étrangères, que ce genre de livre ne soit pas distribué gratuitement. Que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, ce sont des livres qui, oui, peuvent être aussi dangereux car ils amènent, comme on l'a dit précédemment, une aptitude à la manipulation. Mais néanmoins, c'est un sont des livres, ou surtout les 48 lois du pouvoir, un livre qui amène à gérer le pouvoir et qui nous apprend surtout une chose, c'est que l'histoire est importante et que l'histoire se répète. Car dans ce livre, comme dans les 33 lois de la guerre, Robert Greene a la même stratégie, c'est-à-dire qu'il utilise l'histoire, des anecdotes historiques afin de pouvoir faire passer des enseignements qui ne meurent jamais, car les principes sont éternels, les principes demeurent. Les hommes passent, les institutions restent, les principes restent, car ils sont comme des lois de la nature, comme celles de la semaille et des moissons. Alors, il est intéressant de se rendre compte que ce livre, justement, est explicite dans le sens où il enseigne directement à ceux qui le lisent les lois du pouvoir, donc il est beaucoup plus facile de pouvoir s'en accaparer, de tirer le pouvoir, c'est-à-dire de générer ou régénérer la volonté de pouvoir dont on a parlé récemment. Mais il est intéressant ou important de rappeler qu'il faut le regarder avec un œil avisé, parce que sinon on devient tout simplement machiavélique ou manichéen et ce serait assez dangereuse chose que justement les responsables de cette prison là dans l'Utah ne voudraient pas. Alors les textes plutôt de livres saints ou de religion dites révélés comme nous l'avons parlé la fois passée, sont plutôt des textes hermétiques qui certainement donnent du pouvoir à ceux qui savent les lire, ceux qui savent les interpréter, mais qui requièrent des clés, qui requièrent une batterie, comme nous l'avons dit dernièrement. Car malheureusement, nous pensons qu'avec l'émission passée ou les émissions passées, beaucoup ne nous comprendront pas, beaucoup vont nous prêter des intentions en essayant de décrédibiliser les livres qu'ils lisent, ce qui n'est pas notre démarche ici. Nous voulons plutôt commencer un débat, que les gens se posent des questions, que les gens réfléchissent et que nous puissions avoir une réflexion dynamique par rapport à ces choses et non pas simplement rester dans le statisme. Car nous avons dit que sans clé, sans batterie, eh bien, nous ne comprenons pas ces choses. Parce que beaucoup viendraient, par exemple, donner des contre-exemples en disant « mais ceci, mais cela ». Ce que nous refusons pas, car nous ne sommes pas ici dans une démarche de décrédibiliser les choses ou les religions, cela, mais nous nous amenons à réfléchir sur le plan de vue historique, sur ce qui se passe, sur les faits et non pas sur la foi ou les foi des gens. Voilà pourquoi ici, par exemple, nous parlerons de le livre de Max Weber pour pouvoir aussi illustrer ce que nous avions dit la fois passée, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, qui défend les racines du protestantisme, les racines du capitalisme dans le protestantisme. Et Max Weber, à travers cet ouvrage, a pu montrer comment, en fait, la richesse de beaucoup de nations, comme celle des Amériques, comme celle plus tard de l'Angleterre, comme celle des pays scandinaves, ou d'autres pays encore, ont pu se faire par le capitalisme et le truchement du protestantisme, et comment le protestantisme, qui avec les différentes réformes de Luther et de Calvin, a pu apporter un capitalisme qui a fait que ses adeptes ont investi et ont vécu beaucoup plus modestement et ont pu créer des entreprises qui ont créé des richesses qui ont amené le monde que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, c'est aseptiser la réalité de ne pas attacher ce mouvement capitaliste à ces mêmes personnes dont nous avons parlé dans l'émission précédente, à ces mêmes personnes qui, certes, avaient la Bible sous l'aisselle, mais qui se sont ingéniés à investir massivement dans le commerce de l'esclave, de l'esclavage, dans le commerce des esclaves, en allant piller l'Afrique, en la dépossédant de ses fils et de ses filles, afin justement de créer ce capitalisme-là. Car on veut souvent enjoliver les choses pour dire que la modernité est née du capitalisme, du protestantisme, mais on oublie que ce sont ces mêmes protestants et capitalistes qui ont investi massivement dans le commerce dit triangulaire, ou plutôt l'exploitation dite triangulaire, afin de paupériser le continent africain et d'enrichir plutôt d'autres continents. Et ces idéologies-là, comme nous le disons, était faite sous une économie où l'esclavage était un pilier, car lorsqu'on en lit les Pentateuques, il y a des lois sur l'esclave, et cela a certainement mis à l'aise ceux qui ont investi dans cette économie-là. D'où nous disions dans l'émission passée qu'il fallait revoir les textes passés sous l'œil de la recherche scientifique, dans le sens où nous regardons ce qui se passe sur le terrain et nous donnions les ouvrages de Finkelstein, Israël, et de Romer Thomas pour y voir plus clair, pour y comprendre le contexte politique qu'il y avait à l'époque. Sinon, nous tombons encore dans une autre interprétation où on en dirait que les Africains qui ont été déportés dans les Amériques n'était que une fatalité voulue par Dieu, dans le sens où, comme une idéologie qui se développe, libre à ceux qui veulent la suivre, je ne suis pas ici pour juger. Disons que les Africains qui ont été déportés dans les Amériques sont les vrais fils d'Israël, dans le sens où la prophétie de Deutéronome qui dit, ou de Genèse qui dit que les Hébreux seront déportés et iront en esclavage, eh bien ça se rapporte à ces Africains-là, alors que ceux Africains qui se prétendent donc être sémites, étant en Amérique, viennent de populations africaines qui elles-mêmes sont dites kémites, donc égyptiennes, car il y a eu des migrations. Comment passe-t-il de kémites à sémites en traversant l'Atlantique? Cela reste encore un mystère. Donc, pour dire que la théorie ne fonctionne pas du tout. Donc, des interprétations donc que nous faisons à la va-vite, comme l'exemple que nous avons donné de cet ingénieur qui avait prophétisé la fin du monde en 1988 à cause de certaines données. Eh bien, ces données étant à la base mal interprétées, eh bien, la conclusion ne peut être que aussi caduque, c'est-à-dire non avenue et nulle. C'est ainsi donc que la lecture des Écritures, la lecture des livres doivent être faites avec un esprit critique, un esprit avéré, une intelligence pointue, afin de ne pas mener les gens en bateau ou du moins les tromper. Donc, la science, la connaissance est faite des faits, des essais et des erreurs, et il faut s'en rendre compte pour ne pas tomber dans des choses qui ne devraient pas être. Après le livre de Max Weber, donc qui parle de l'éthique protestante de l'esprit du capitalisme, ce livre nous l'avions mentionné pour illustrer le fait qu'il y a eu ce travail, du moins chez les Occidentaux, de tirer le pouvoir. Hein. Le pouvoir, c'est surtout un pouvoir financier, économique, une volonté de pouvoir, hein, de ce, par exemple, de la Bible, en développant une idéologie par rapport avec Luther, Calvin et les autres plus tard, d'autres encore penseurs qui ont ajouté à ce mouvement. Cette pensée financière qui allait conduire les nations occidentales vers beaucoup plus de prospérité, plus de richesse. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, cela a été fait grâce, par exemple, à l'exploitation des autres, l'exploitation de l'homme par l'homme. Car c'est ça même le capitalisme, l'essence du capitalisme, on le dit, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et maintenant même le capitalisme, on ne peut pas le mentionner sans le lier aux paradis fiscaux. C'est une association symbiotique qu'il y a entre le capitalisme symbiotique et les paradis fiscaux. Aujourd'hui, l'on veut simplement limiter la définition du capitalisme à la libre entreprise, au droit à la propriété privée, au minimum de possible de régulation de l'État, bien qu'il doit être là quand même pour arbitrer le match. Mais on ne peut pas dissocier le capitalisme des paradis fiscaux, c'est-à-dire de la fuite fiscale et de l'évasion fiscale, par exemple. Et ces choses sont liées donc quelque part, ou non pas quelque part, mais clairement, de la tricherie tout simplement dans le système de jeu qui est établi ici. Donc on ne va pas aseptiser les choses, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc cette notion de pouvoir qui a été utilisée à travers les écrits, par exemple bibliques, pour créer une idéologie, le capitalisme, pour créer plus de richesses, ne se fait pas sans exploitation de l'homme. Donc le système est imparfait. Donc ce pouvoir qu'on a retiré des écrits, les hommes l'ont aussi perverti pour créer un système qui n'est pas juste, parce que des choses ont été mal écrites, mal interprétées. Par exemple, ces gens s'asseyaient sur des textes comme ceux qui légalisent ou du moins organisent l'esclavage dans les textes biblique, sans comprendre le contexte dans lequel ces choses avaient été dites et le peuple qui les avait écrites à ce moment-là. Et nous en avons parlé déjà dans l'émission passée pour amener la critique sur ces passages et leurs vraies ou véritables origines. Alors à côté de ça encore, il y a le fameux livre de Chateaubriand, Le génie du christianisme, qui s'ingéniait à l'époque de combattre l'époque des Lumières, des savants des Lumières, hein, vous savez. Après le Moyen-Âge, lorsque les Maures et les Arabes ont été chassés de l'Europe et que les Occidentaux ont repris le contrôle de ces régions et qu'ils ont fait un travail de traduction des textes arabes qui étaient là à l'époque, des textes scientifiques, afin de les transcrire en latin, afin de pouvoir prendre contrôle sur leur système éducatif, et bien à ce moment-là, il y a eu ce travail d'humanité classique européenne qui a été fait, c'est-à-dire se baser sur les racines gréco-romaines pour pouvoir créer toute une idéologie. Voilà pourquoi les textes bibliques qui sont à l'origine africaine pour certaines, d'autres mésopotamiennes du moins, en tout cas la région du croissant fertile, eh bien ces textes à ce moment, au moment des Lumières, vont être qui du côté des croyants être placé dans l'art afin de pouvoir mieux faire asseoir cette religion, cette vision dans le corps des croyants, et qui pour les athées, eh bien ils les utilisaient simplement dans les mouvements ésotériques, par exemple, bien que ces mouvements ésotériques, il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne le sont pas, mais injectaient toujours dans ces mouvements les différentes philosophies gréco-romaines qui sont à la base, nous le savons, égyptiennes. Nous avons parlé abondamment ici du panthéon égyptien qui a inspiré le panthéon grec et romain. Nous avons parlé d'Artémis, nous avons parlé de Mars ou d'Arès, les deux qui viennent de pensées, de courants de divinités égyptiennes, à savoir Mars, donc Muntu, et puis Artémis, à savoir Bastet ou Sekhmet. Donc, le génie du christianisme venait, ce livre écrit par Chateaubriand, venait pour combattre ceux-là qui refutaient la religion au niveau de l'époque des Lumières, pour montrer au fait le génie que le christianisme avait apporté. Le génie du christianisme a eu une très très grande influence dans l'art aussi et dans au milieu des intellectuels européens, car ce livre a apporté au fait ce que nous appelons aussi, ce que nous avons dit la fois passée, ce sentiment de puissance par rapport aux écritures, c'est-à-dire comment est-ce que les peuples, donc Chateaubriand s'est ingénié à pouvoir démontrer comment de ces textes l'on pouvait retirer cette puissance qui allait encourager les croyants à persévérer dans la religion, du moins chrétienne, pour pouvoir s'émanciper et s'épanouir. Alors, face à lui, il y avait les mouvements d'Erasme, les mouvements des Lumières, les mouvements de ceux-là qui pensaient plutôt à un courant de modernistes. Et je pense que où nous pensons, où c'est plutôt la conjonction de ces différents courants qui ont apporté la civilisation européenne telle que nous la connaissons, du moins après le 18e siècle, c'est ces deux différents courants qui ont apporté la pensée européenne telle que nous la connaissons, c'est-à-dire basée sur les récits bibliques, mais bien avant ça aussi islamique, car il ne faut pas négliger que justement avant la Renaissance, les Arabes étaient implantés massivement en Europe. Et la raison pour laquelle l'Andalousie a été la première à décoller, c'est parce que les Arabes s'étaient établis beaucoup plus profondément intellectuellement à ce niveau, afin de pouvoir perpétuer le développement. Car quand les Maures et les Arabes ont envahi ces endroits, et les Juifs aussi s'y étaient placés à certaines villes stratégiques, eh bien il y a eu un foisonnement. Voilà qu'on appelle là, on appelle cette époque-là l'âge d'or des Maures. Et le livre de Rachidi Runoko, The Golden Age of the Moors, en parle abondamment. Donc l'Andalousie, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, ont décollé beaucoup plus rapidement que les autres parties de l'Europe, parce que les Arabes s'y étaient établis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus profondément. On connaît beaucoup de califats à Rome, pardon, en Espagne et au Portugal. Et c'est au sud, c'est au Portugal que l'on retrouve par exemple le fabuleux château de Alhambra. Hein, Alhambra. C'est au château qu'on voit Alhambra, magnifique château que vous pouvez voir sur certainement YouTube ou sur Internet. Donc les Arabes se sont établis profondément en Espagne. Il y a beaucoup de châteaux arabes ou maures en Espagne et au Portugal. Et c'est parce que les Arabes et les Maures, donc les Noirs qui étaient musulmans, s'y sont établis pendant des années. Et la science arabe et ou musulmane est très foisonnante, car ces populations qui avaient envahi l'Égypte d'abord, il faut bien connaître les origines, s'étant établies à Alexandrie bien avant déjà, ou partiellement, et après lorsqu'ils ont envahi l'Égypte, eh bien c'est là où ils ont pu s'accaparer des connaissances égyptiennes et les développer, et c'est ainsi qu'en s'implantant au niveau de l'Andalousie, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, ils vont développer ces sciences-là. Et lorsque les Européens vont reprendre le contrôle de ces régions-là, c'est la raison pour laquelle l'Espagne et le Portugal émergent beaucoup plus tôt que les autres, parce que les Arabes y étaient arrivés avec les Maures, grâce aux connaissances qu'ils avaient prises en Égypte préalablement. Donc, les connaissances des Portugais vont les amener pour les connaissances des Portugais et des Espagnols pris des Maures et des Arabes vont les amener à explorer le monde ou à développer leur piraterie, ce qui les amènera à différents endroits du globe pour opérer ce que nous connaissons tous. Donc, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, le génie du christianisme de Chateaubriand sont deux ouvrages, deux piliers qui nous montrent le travail que les Occidentaux ont eu à faire pour utiliser les textes bibliques afin d'avoir le pouvoir, afin d'en faire un élément culturel, un élément de conquête, un élément de richesse, un élément d'identité afin de pouvoir avancer. Mais tout cela s'est fait par quelle opération? Par une opération des racines gréco-latines, des humanités classiques, sujet dont nous avons parlé ultérieurement dans ce show, que je vous invite à suivre si vous n'avez pas suivi encore. Donc, les récits bibliques vont être réinterprétés. La notion de pouvoir ou s'accaparer de ces histoires vont se faire comment? Par le fait que les humanités gréco-romaines vont être utilisées, de sorte que dans l'art du christianisme du Moyen Âge et de l'époque de Lumière et post-Lumière, eh bien vous verrez que par exemple sous Michel-Ange, sous Raphaël, sous Donatel et les autres, Léonard de Vinci, eh bien vous verrez que l'art est profondément gréco-latin. Les anges que vous voyez, ce sont des cupidons, hein, des petits enfants avec des ailes. Les dieux ressemblent à une espèce de statue grecque, c'est-à-dire un homme bien barbu, vieux, une espèce de statue grecque, comme nous l'avons dit. Donc une image d'un monsieur grec, d'un homme grec, d'un sage grec. Donc ce sont les humanités gréco-latines, les mythologie gréco-latine qui vont, ou l'imagerie du moins, qui vont influencer les premiers protestants, capitalistes, catholiques. Donc ce courant-là va être, influencé par ce qui s'est passé dans l'Antiquité gréco-romaine afin de pouvoir, injecter ces choses dans le protestantisme, dans le catholicisme, et bien que les deux vont avoir des divergences, vont se séparer, car les protestants vont investir, vont plus être capitalistes, tandis que les catholiques vont être beaucoup plus, dans la parure et dans la rétention des ressources. Voilà pourquoi on a cette philosophie un peu latine au niveau de l'Europe, qui est différente un peu des anglo-saxons, par exemple, car les anglo-saxons, c'est eux qui développent un peu plus le côté protestantisme. Et les anglo-saxons sont beaucoup plus dans l'investissement, comme les Anglais, comme les Américains, par exemple. Et les Français, plutôt, ou les Italiens, ils sont un peu plus comme des vieilles nations où le catholicisme a eu beaucoup plus d'emprise. Et bien, vous voyez que les deux modèles économiques vont un peu diverger, que ce soit dans le capitalisme avec le protestantisme ou que ce soit dans le catholicisme avec, le socialisme. Donc, vous verrez que ces différents courants, qui sont les deux têtes pensantes de la plupart des mouvements politiques dans les pays, à savoir capitalisme, socialisme, gauche, droite et gauche, eh bien, vous voyez, nous voulons vous donner ici les racines profondes de ces différents systèmes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors lorsqu'on se pose donc la question, si vous m'avez bien suivi, et je pense que il est important de suivre au moins deux fois nos podcasts pour pouvoir vraiment en tirer toute la substance et la semence, il est important de comprendre que les systèmes politiques qui nous dirigent aujourd'hui, eh bien il faut comprendre leurs racines historiques pour en savoir les tenants et les aboutissants. Ce que nous venons de faire maintenant, c'était un travail pas facile pour vous expliquer et vous dépeindre, vous démontrer au fait d'où viennent les systèmes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui. Et De très loin, les racines sont africaines, car même les systèmes gréco-latins, comme nous l'avons dit, ils sont issus de ce qui se passait en Égypte. Et lorsque les Égyptiens les Grecs et les Romains ont essayé de de développer leur nation, eh bien, d'abord, ils ont commencé par copier servilement ce qui se passait en Égypte, comme les statues Kouros, l'art Kouros, les dieux. C'était d'abord un copier-coller simplement de tout ce qui se passait en Égypte, et ensuite, ils ont changé les choses. Et c'est pas un hasard pour beaucoup d'obélisques ont été prises en Égypte et ramenées en Europe, que beaucoup de statues égyptiennes ont été ramenées en Europe, que la connaissance a été ramenée là-bas, avec par exemple, nous l'avons dit, les Anglais ou Napoléon qui est venu en Égypte tambour battant avec ingénieurs et scientifiques à l'appui pour pouvoir non pas simplement envahir un terrain, mais surtout conquérir une idéologie, une connaissance, chose qu'Alexandre le Grand avait fait bien avant lui et qu'il voulait probablement imiter. Car Alexandre le Grand aussi est venu se faire initier en Afrique et a pris les traits de Pharaon afin de pouvoir régner. Alors cela me fait un peu penser que quand j'étais gamin, au matin, quand vous vous réveillez, eh bien, vous vous rendez compte que parfois dans un coin de la maison, vous pouviez voir un insecte, un cadavre ou d'un insecte est complètement assailli par des fourmis et par groupe. Vous pouviez voir un groupe de fourmis qui prenant une aile, qui transportant une patte, qui amenant une mandibule. Et ça me fascinait parfois de regarder ça, de voir toutes ces fourmis autour d'un insecte mort, et chacun détacher une partie du corps de l'insecte et l'amène plus tard. Il y en a qui vont prendre une patte, il y en a qui vont prendre une aile avec une force prodigieuse. C'est assez fascinant de voir ça. Et ça me rappelle au fait ce qui s'est passé justement avec l'Égypte. Plusieurs envahisseurs arrivant, prenant un obélisque, l'emportant chez eux, prenant un temple, l'emportant chez eux, venant en Afrique noire profonde, même si l'Égypte est noire aussi, prenant toutes ces œuvres, les pillant, les ramenant dans leur musée et les exposant. C'est très éloquent. C'est très éloquent. Donc, ce que nous avons voulu faire ici, c'est montrer les racines des systèmes politiques qui nous gouvernent. Nous parlons du pouvoir. Hein. Les deux dernières émissions étaient basées vraiment sur le pouvoir. Et ici, cette émission est un récapitulatif du pouvoir. Nous avons commencé l'émission en parlant des prisonniers, qui sont censés être des gens à qui on va enlever toute liberté. Et la liberté, c'est l'ultime pouvoir. Et on va même enlever quoi? La liberté de penser. Car lorsqu'elle est révélée, car nous l'avons dit, par exemple, l'ONU dit que, puisque c'est dans l'esprit des hommes, qui prennent les idées de guerre, et bien c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et tout commence par la pensée, et ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Hein. Dans les proverbes, on dit « garde ton cœur, puisque tout, car de là viennent les sources de la vie, et c'est du cœur que viennent les intelligences. » Car en ancienne Égypte, on connaissait déjà le principe d'intelligence émotionnelle, de l'intelligence du cœur, car nous l'avons dit ici une fois aussi, je pense, que le cœur aussi a un système nerveux qui lui est propre, qui est presque indépendant de celui du système nerveux, du cerveau que l'on a. Et donc le cœur a son cerveau à lui-même en soi. Et nous avons donné des anecdotes d'une personne, par exemple, qui avait été une transplantation du cœur, et qui après la transplantation avait des rêves de noyade. Et quand elle a fait l'enquête, elle s'est rendue compte que la personne qui était noyée, le donneur du cœur, était mort noyé, et ce souvenir là l'a hanté. Ce qui fait qu'il y a une possibilité, que le cœur aussi ait une sorte de mémoire. C'est une possibilité, en effet. Bon, évidemment, c'est une possibilité. Est-ce que toute personne qui a forcément une transplantation du cœur a les mêmes expériences? Ça, il faut une expérience beaucoup plus vaste, beaucoup plus large pour pouvoir en tirer une conclusion scientifique. Hein. Nous ne voulons pas ici, énoncer des théories qui ne sont pas vérifiées. Nous parlons simplement de certains faits. On peut pas établir une théorie simplement sur quelques anecdotes de quelques personnes. Voilà pourquoi nous prenons des précautions. Nous disons peut-être, parce que nous voulons être le plus scientifique possible ici. Donc nous disions que Max Weber ou Chateaubriand expliquent à travers leurs ouvrages ce que le christianisme a pu apporter comme développement économique dans leur région. Donc, lorsque nous disions dans l'émission précédente que voilà ce que y a-t-il possibilité de tirer la puissance de certains livres, eh bien, ceux qui ne seraient pas d'accord mentionneraient ces deux livres ou s'insurgeraient. Mais nous voulons dire que nous ne sommes pas ici pour attaquer, nous voulons avoir tous les points de vue et nous savons que nous avons parlé de ces choses en connaissance de cause parce que ces deux ouvrages, par exemple, montrent comment ce livre, en tout cas, à savoir la Bible, a pu être utilisé dans les civilisations occidentales pour apporter le développement. Maintenant, comment est-ce que ça s'est fait? C'est parce qu'il y a eu un travail en amont afin que le résultat se fasse en aval ou vice-versa. C'est-à-dire que Weber l'a démontré, Chateaubriand l'a démontré dans le génie du christianisme, Weber l'a démontré dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais ce que nous disons, c'est que ce travail a été fait par des personnes qui ont manipulé et maquillé des choses parce que ce grand travail d'éveil du christianisme a été fait par le travail aussi des lumières qui ont contribué. Bien que les deux forces peuvent paraître antagonistes, parce que les êtres des lumières avaient commencé un travail beaucoup plus critique sur la Bible, par exemple. Je pense que Spinoza, si je ne me trompe pas, était celui déjà qui commençait à avoir posé certaines questions sur certains faits scientifiques et bibliques, par exemple. Et plus tard encore, beaucoup d'autres personnes des Lumières ont eu à commencer ce travail scientifique-là pour discréditer les choses, comme si de l'autre côté aussi il n'y avait pas de science. Mais bon, il y a eu ce travail donc. Mais il faut savoir que la civilisation européenne occidentale telle qu'on la connaît, c'est ces deux forces-là qui ont travaillé concomitamment, parfois à l'opposé, parfois se sont battus ou combattus. Mais ce sont les deux mouvements qui ont créé la civilisation européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, celle qui a été des Lumières et celle qui, comme Chateaubriand ou Max Weber, défendait les valeurs dites chrétiennes pour pouvoir asseoir le développement. Mais comme nous l'avons dit, ces deux idéologies-là, c'est le christianisme à l'européen tel que nous le connaissons, que ce soit avec le catholicisme ou avec le protestantisme, les deux se sont basés sur certains faits, comme l'esclavage, par exemple, qu'ils ont légitimé par les textes bibliques, comme par exemple la malédiction de Cam hein, ou de Cham, ou par exemple les passages qui légitimisent ou organisent l'esclavage dans la Bible, ça a été utilisé pour pouvoir dire voilà, c'est biblique, voilà, c'est divin, et voilà, nous pouvons le faire, il n'y a pas de honte à cela, c'est tout à fait normal, faisons ça. Et l'être humain s'est au contraire déshumanisé en utilisant des fausses prémices, en utilisant des fausses références pour pouvoir exploiter les autres. Mais in fine, on ne retient que la beauté, soi-disant beauté du protestantisme, soi-disant beauté du capitalisme, alors que les racines en sont étranges. Il y a du bon, mais il y a aussi des racines de ceux-là qui ont exploité le système afin de pervertir, afin de déshumaniser, afin d'exploiter. Et cette idéologie, comme nous l'avons dit, c'est celle qui nous a été apportée dans le sens où l'Africain, lorsqu'il a maintenant cette idéologie, cette vision du monde chrétien, protestant ou même catholique, qui a été construit dans le sens où on a dénaturé l'homme africain noir, lorsque l'on consomme maintenant ce christianisme à ce niveau, c'est là où il y a problème, c'est là où on n'arrive pas à tirer la puissance de ces ouvrages. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail d'intellectuel européen afin de d'enlever toute humanité à ces populations noires. Voilà pourquoi il faut ce travail intellectuel, il faut ce travail de recherche scientifique pour comprendre, pour pouvoir en tirer la puissance, connaître l'histoire africaine afin de pouvoir tirer la puissance des choses. Car la Bible, en soi, parle d'histoire qui serait plutôt africaine et du Moyen-Orient. Mais comment l'Europe a pu s'acquérir de ça? Eh bien, c'est en faisant ce travail et malheureusement en faisant ce maquillage aussi où les récits gréco-romains ont été utilisés pour exprimer l'art européen afin que les croyants puissent s'en accaparer, c'est-à-dire présentant tout ce qui est biblique comme étant européen, du moins dans le phénotype, dans la présentation, et en greffant ces principes ou en dénaturant certains principes ou par exemple en défendant des idées comme la malédiction de Cham pour pouvoir justement légitimer l'esclavage, car le protestantisme, le capitalisme étaient dans ce courant d'investissement et pour investir. Donc il fallait travailler extrêmement dur. Et toute cette pensée-là a été aussi, nourrie par le fait que pour travailler, eh bien, il faut de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, bibliquement parlant, elle se justifie par l'esclavage. Dans, en tout cas, l'Ancien Testament, il y a des lois sur ce sujet. Donc, nous allons prendre des gens là-bas en Afrique, puisqu'ils sont maudits par rapport à ce que certaines personnes disent, des intellectuels, eh bien, c'est ainsi que nous allons donc créer la richesse et le capitalisme. Et lorsque nous voulons créer la richesse et le capitalisme, nous, en Afrique, eh bien, il faut en connaître les racines. C'est extrêmement important, car nous ne pouvons pas essayer de venir couper sans état d'âme son poisson avec un couteau qui a servi à tuer son parent. On dit, tu sais, voilà, ce couteau a servi à tuer ton parent, et voilà, prends-le, je te l'offre, coupe ton poisson avec. On va le regarder, on va se dire, oh, mais il y a quelque chose qui colle pas ici. Donc, ce que nous disons ici, in fine, c'est que les Africains doivent se réapproprier leur histoire. La foi, c'est au niveau personnel. Chacun prend sa décision au niveau personnel et même au niveau du groupe. Mais cela ne doit pas dédouaner de faire ce travail de recherche, ce ne doit pas dédouaner de faire ce travail pour en connaître les racines, pour pouvoir prendre des décisions rationnelles et ne pas simplement suivre les autres, faire comme les autres parce que cette religion dit ceci et on va suivre tout ce que les autres font. Sinon, on risque d'adopter les traditions des autres au détriment même de nôtres, dans le sens où si la tradition de l'autre dit voilà, être noir c'est une malédiction et on accepte ça aussi sans avoir fait de recherche, et là c'est extrêmement dangereux. Au niveau de l'islam par exemple, nous avons le fameux livre de Rashid Iruna, que nous avons déjà, en parlons abondamment, Golden Age of the Moor, où nous l'avons expliqué la fois passée, où morts, qui étaient des noirs africains, qui sont partis en Europe, qui ont aussi civilisé ces terrains et le nord de l'Afrique aussi. Eh bien, oui, il y en avait beaucoup qui étaient nobles, et l'islam aussi qui s'est enrichi des textes égyptiens, de la connaissance égyptienne pour pouvoir développer beaucoup de thèmes. Et nous savons que l'islam aussi a des racines chrétiennes. Si vous connaissez, vous suivez faites vos recherches là-dessus, comment l'islam a commencé. Eh bien, il y a des informations très éloquentes sur comment ce mouvement a commencé, à faire une branche des premiers chrétiens qui a développé ces choses avec beaucoup de concepts du Moyen-Orient et celle de l'Égypte de l'Afrique et de l'Égypte notamment, donc l'Égypte noire. Eh bien, ces différents concepts-là ont nourri justement l'islam et les Maures et les Arabes qui ont eu à développer certaines civilisations au niveau du nord de l'Afrique et au niveau de l'Europe. Mais comme nous l'avons dit, il y a aussi une campagne de diabolisation au niveau de certains intellectuels de ces zones, ce qui fait que les populations noires aussi ont été diabolisées avec le temps. Et cela a amené aussi une certaine servilité, un esclavage qui avait été mis en place dans les côtes africaines. Nous connaissons les razzias musulmanes qui ont été faites en Afrique de l'Est notamment, et même de l'Ouest aussi, un tout petit peu, hein, l'Ouest aussi qui a été faite aussi, au nord de l'Afrique disons, au nord de l'Afrique il y a eu des razzias qui ont été faites. Et bien, pourquoi est-ce que ces razzias? Évidemment, nous savons que les razzias musulmanes ont été aussi faites sur les Européens. Nous parlons de slaves, esclaves, esclavonie. Nous en avons déjà parlé ici. Les populations blanches qui étaient prises par les musulmans ou les arabes pour les ramener, pour les amener en esclavage en Europe. D'où le mot slave est resté. Parce que c'était des slaves, des populations slaves qui étaient vendues dans les marchés. Donc, il y a eu ces raids au niveau des populations blanches pour être mis en esclavage dans les harems des sultans. Mais il y a eu aussi ces razzias négrières, comme on dit, sur les populations africaines et pour les mettre en esclavage et pour les exploiter. Et à côté de ça, une littérature aussi abondante s'est développée, vu que, vous savez, la fameuse histoire de Cham s'était un peu répandue comme une traînée de poudre. Eh bien, dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens, et voilà, ce sont des esclaves et il fallait les mettre sous le joug. Et à côté de ça, donc, les populations donc africaines, avec le temps, ont eu du mal. Ont eu une politique ou du moins une position d'esclave suite aux attaques répétées que le continent a subies, et les gens ont été nourris, justement les guerriers ont été nourris par des pensées négatives, un peu comme Nicolas V qui disait que les noirs n'ont pas d'âme, donc on peut les exploiter et faire du commerce sous leur dos, les mettre en esclavage, il n'y aura pas de problème. Donc tout au long de l'histoire, il y a eu comme ça cette diabolisation des civilisations noires par plusieurs religions ou plusieurs leaders d'opinion exploitant ces religions pour leur propre profit. On n'est pas ici pour faire le procès des religions, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'analyser froidement ce qui s'est passé dans l'histoire, et c'est aux personnes maintenant de prendre en compte ces choses et d'avancer avec, et non pas de faire la politique de l'autruche en nous prêtant des intentions de jugement des religions ou des autres ou des gens qui les pratiquent, mais nous ne faisons que rappeler ce que l'histoire a fait, et c'est sale et il faut assumer. Ça me rappelle Bill Clinton qui avait une fois dit voilà ce que le gouvernement américain avait fait était honteux, car il y a eu des expériences sur les noirs africains américains sur la syphilis, des expériences que le gouvernement avait menées, des expériences extrêmement graves où des personnes avaient été injectées de la syphilis et il n'avait pas été donné les soins nécessaires, et beaucoup de gens sont morts comme ça parce qu'on voulait juste voir ce que la syphilis faisait à ces gens. Et c'était vraiment diabolique et innommable, horrible. Et le président avait, Bill Clinton à l'époque, avait reconnu publiquement que ce que le gouvernement avait fait était inadmissible. Mais bon, plus aurait certainement pu être fait, mais voilà, on reconnaît du moins que dans l'histoire de la puissante Amérique, eh bien tout n'est pas rose, il y a des choses sales qui ont été faites, et voilà, on avance. Mais très souvent, beaucoup veulent cacher ce que les autres ont fait, ou les problèmes qu'il peut avoir dans certaines présentations des faits. On fait simplement une politique de truche, on veut simplement défendre son... ou prêcher pour sa propre église, ou défendre sa religion, défendre quelque chose, alors qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui ont manipulé des choses afin de donner une certaine coloration à la religion pour pouvoir défendre un certain agenda. Et tant que nous n'aurons pas le courage d'avoir des conciles pour pouvoir traiter ces choses, pour pouvoir nous redéfinir, et que nous définirons toujours par rapport au paradigme des autres, eh bien il y aura toujours un problème. Et ces livres resteront des téléphones sans batterie, des téléphones sans pile. On pourra y taper le nom de le numéro de Dieu, et eh bien on n'arrivera jamais à l'avoir. Et on pourra taper le numéro de qui on veut, et eh bien on n'aura jamais personne au bout du fil, parce que à la fin de la journée, et eh bien on n'a pas de batterie. Et eh bien la batterie, comme c'est quoi? C'est l'énergie, c'est l'histoire, c'est la vérité. Hein, c'est la vérité qui a franchi, c'est la vérité justement qui nous connecte au divin, c'est la vérité qui nous connecte à soi. C'est la vérité qui nous connecte à notre frère, à notre sœur. C'est la vérité qui nous permet de connaître que nous sommes un, que nous sommes tous une seule race. Il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Que l'arabe, que le caucasien, que le noir, ils sont tous frères, ils doivent travailler ensemble. Mais cependant, voilà, le monde n'est pas rose. Il y a des intérêts économiques, géopolitiques et stratégiques qui fera que, voilà, en politique, il n'y a pas d'amis, il y a que des intérêts. Il faut prendre ça en compte. Il ne faut pas jouer les bénis, oui. Et quand quelqu'un vient pour trouver nos richesses, eh bien, on va simplement tout lui montrer, tout lui donner, parce que, voilà, on est frères, sœurs. Eh bien, il y a des intérêts, l'homme est homme, la femme est femme, et voilà, il faut se rendre compte de ces choses, travailler pour plus de coopération, mais il faut être aussi prudent, savoir que l'homme a une nature mauvaise, et il faut savoir jouer avec ça. Car la 7e loi du livre de Warburg Green nous rappelait qu'il fallait transformer la guerre en une croisade. Et beaucoup de guerres qui ont une vocation purement économique ont été transformées en des croisades, c'est-à-dire qu'on a utilisé la religion afin de pouvoir conquérir les autres. Et beaucoup dans cette mission-là ont changé les textes ou les ont adoptés à leur image afin de pouvoir justifier ces conquêtes, afin de pouvoir justifier ces exploitations. Nous avons déjà donné beaucoup d'exemples par rapport à cela. L'Afrique, donc, les Africains, les Noirs en général, devraient donc comprendre la notion de pouvoir, la notion de puissance. Et tout commence d'abord par le mental. Nous avons parlé de l'impuissance acquise, de l'impuissance apprise. Et bien ensuite, nous avons parlé de la volonté de puissance, comment doper, développer sa volonté de puissance. Et lorsque beaucoup veulent assujettir quelqu'un, ou l'Afrique, comme des puissances qui veulent assujettir l'Afrique, eh bien, voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de cette prison où qui, en vue de ne pas laisser ses prisonniers libres, interdit ce livre-là, les 48 lois du pouvoir, parce qu'ils savent que ça n'a pas l'air du pouvoir sur ce lieu-là. Et l'Afrique a été transformée, disons-le, en une prison. En une prison parce qu'on veut réguler l'immigration, on ne veut plus que les gens sortent massivement. Vous savez comment nous sommes traités dans les ambassades ou dans les consuls. Lorsque vous allez prendre un visa, chercher un visa pour la France ou pour les États-Unis, vous savez le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Vous savez le nombre de personnes qui... comment ils sont traités. Vous savez comment vous avez été frustré en allant chercher un visa. Comment vous êtes traité. Je me rappelle une fois, j'étais allé quelque part au pays et l'ambassadeur de certains pays nous dira que oui... nous donnons des visas d'une année et même de 10 ans à d'autres personnes, mais pour votre nation, nous ne donnons que de 3 mois. Et il nous l'a dit comme ça. Et vous savez, donc je ne vous apprends rien, comment nous sommes traités dans les ambassades, quand nous allons chercher des visas, et comment l'immigration est traitée, comment nos frères et ses sœurs meurent dans la Méditerranée, et comment j'avais parlé du fait que on parle du contrôle de population, parce que le Nigeria qui aurait plus de environ 400 millions d'habitants bientôt est en train de faire peur à beaucoup. D'autant plus que c'est peut-être la première économie, c'est probablement, je pense, la première économie d'Afrique. Donc, l'Afrique est donc considérée comme une vaste prison. Il faut retenir les gens. Et les gens pensent aussi comme ça que c'est une prison. Et voilà pourquoi les gens veulent en sortir. Alors, cet exemple de l'état de l'Utah aux États-Unis doit nous interpeller. Pourquoi ne veut-on pas que ces prisonniers aient ce livre sur le pouvoir? Eh bien, tout simplement parce que vous connaissez les mécanismes du pouvoir, lorsque vous savez manœuvrer les leviers du pouvoir, eh bien, vous devenez dangereux. Vous devenez dangereux. Alors, les livres comme la Bible, comme le Coran et d'autres pensées philosophiques ou religieuses sont des cadenas, sont des livres ce qu'on appelle hermétiques. Alors, il faut avoir la clé pour pouvoir décoder ce qui se passe à l'intérieur afin de pouvoir retirer le pouvoir qu'il y a. Comme nous l'avons dit, le pouvoir financier économique se fait au niveau occidental en exploitant les principes, par exemple, bibliques au niveau du protestantisme. Il y a de ces gens qui ont décodé ce qui se passait, mais qui ont aussi manipulé beaucoup de choses afin de pouvoir créer le système capitaliste qui nous dirige aujourd'hui. Et à la base même, lorsque les textes bibliques ont été mis en place au niveau de la Septante à Alexandrie, eh bien, il y avait une idéologie aussi des Juifs de l'époque qui avaient écrit ces livres avec une pensée aussi en arrière-plan. Et nous renvoyons à Rohmer et à Finkenstein pour comprendre les origines. Eh bien, tous ces mouvements politiques, ces manœuvres de pouvoir, il faut les comprendre à la base pour pouvoir savoir ce que nous faisons maintenant. Voilà pourquoi ici, nous avions étudié Muntuhotep 2, et exploiter cette histoire pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, comme nous l'avons dit, l'Afrique devra se faire ses propres conciles pour pouvoir aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons. Car le monde dans lequel nous vivons a été fait sous des manipulations perverses. Et si nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants, eh bien, nous ne saurons pas où aller. Donc, l'émission d'aujourd'hui était basée sur le pouvoir, sur comment on retire le pouvoir, ou du moins comment certains ont retiré le pouvoir, des textes aussi bien bibliques que coraniques, et comment les idéologies, les maîtres à penser qui avaient ces livres sous la main, eh bien, les ont utilisés à leur fin pour opprimer d'autres peuples en utilisant des versets controversés, dont les origines sont parfois douteuses. On renvoie au travail de Barthes Ehrmann, et même pas son travail, simplement aux constatations qui sont déjà là et partagées par beaucoup de gens. Et à d'autres exégètes et archéologues pour comprendre les racines de telles paroles, de tels versets, de telles sourates. Et on en comprend. Et tant qu'on n'a pas le paradigme africain, eh bien beaucoup de choses nous passent sous le nez. Et on n'a pas la notion de pouvoir parce qu'on ne contrôle pas ce que nous lisons. Par exemple, nous lisons des livres en anglais, en français, non pas dans la langue. Comme nous l'avons dit, ces livres, pour les comprendre, il faut les lire avec le paradigme africain. Pourquoi? Parce que ce soit l'arabe, que ce soit les langues, l'hébreu, les deux langues sont issues des langues africaines. Hein, et beaucoup de mots, bien qu'il y ait beaucoup de mots qui ont été créés par ces peuples-là eux-mêmes, mais beaucoup de racines sont typiquement africaines, égyptiennes, par les hiéroglyphes. Donc, quand on comprend la pensée africaine, bien on peut comprendre ce que on a voulu dire. Et lorsqu'on connaît le contexte politique, on peut comprendre pourquoi ceci a apparu à ce moment-là. C'est extrêmement important pour pouvoir en tirer la puissance de ce que nous lisons. Donc la volonté de puissance, c'est par là que nous allons conclure, est extrêmement importante parce que c'est quelque chose que Muntu Hotep avait. Dans la volonté de puissance, on doit savoir s'entourer. Je crois que vous connaissez cette image qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux où on montre un lion et il y a cette citation qui dit que vous devez vous entourer des gens qui ont la même vision que vous. On montre un lion avec une horde de lionnes derrière lui qui marche. Eh bien, c'est un peu ce que cette vision que Muntu Hotep a, où les rois égyptiens ont eu en contexte de guerre. Lorsqu'on va en guerre, on va en guerre avec Sekhmet, donc la lionne derrière, comme le lion qui marche et qui est entouré de lionnes. Hein. Vous savez, dans le règne animal chez les lions, dans la savane, c'est les lionnes qui vont souvent à la chasse. C'est quelque chose que les anciens avaient déjà observé lorsqu'ils étaient dans les savanes africaines et qu'ils remontaient petit à petit le Nil pour aller construire la Tamerie. Eh bien, cette pensée, il faut savoir s'entourer lorsqu'on veut le pouvoir. Eh bien, on peut pas s'entourer de personnes qui ont une vision inférieure. Vous connaissez cette fameuse citation, l'aigle ne vole pas avec les mouches. Hein? L'aigle ne vole pas avec les mouches ou l'aigle ne chasse pas les mouches. Hein? Ou l'aigle ne vole pas avec les pigeons. Hein? Donc, il faut s'entourer. Bien que j'ai rien contre les pigeons, j'ai rien contre les mouches. Ils participent à l'équilibre de la nature. Mais voilà, il faut savoir s'entourer. Hein? Et Muntu Hotep s'entoure brillamment. C'est connu. On sait qui était avec lui, qui était dans son gouvernement. Son vizir, son premier ministre. Il y avait deux vizirs célèbres. L'un qui s'appelait Bébi. Hein? Ou l'autre qui s'appelait Dahi, hein, Baby, Babi, Baby, des noms qu'on retrouve même encore en Afrique centrale. Il avait un chef trésorier, ministre des Finances, l'un qui s'appelait Keti, l'autre qui s'appelait Meketre. Hein, il avait un garde de sceaux, ministre de la Justice, qu'on appelait Meru. Et il avait un général en chef qu'on appelait Intef, hein, qui avait le titre de ami personnel du roi et chef des troupes. Donc, Muntu Hotep était très bien entouré. Nous avons parlé dernièrement de Djehemo et de son fils, hein, Djehemo, le fameux Rambo Nubien, hein, qui avait rejoint les troupes de Muntu Hotep et certainement dirigé beaucoup d'équipes lourdes et les enseigner surtout la lutte nubienne et les différentes stratégies de guerre pour pouvoir attaquer le nord. Nous avons dit que Muntu Hotep était descendu vers le sud pour se ressourcer, se régénérer, tirer la puissance de son peuple afin de pouvoir attaquer. Car le nord, c'était certainement allié avec beaucoup de mercenaires asiatiques du Moyen-Orient. Eh bien, Muntu Hotep, lui, décide par contre d'aller s'allier avec les chefs du sud afin de préparer la contre-attaque contre les tribus du Nord. Donc, la volonté de puissance, eh bien, c'est ce que les Africains doivent tirer maintenant. Avec le Covid, par exemple, l'on voit déjà, quelque part, cette volonté de puissance des pays africains, de Madagascar, déjà, qui ne se limite pas simplement dans la prévention, avec les masques et laver les mains, mais voilà, ils ont lancé un produit fait par un Congolais, venu donc du pays des léopards, hein, curieusement, hein, c'est pas un hasard, hein, le professeur ou du moins le chercheur, le docteur Jérôme, en tout cas, Jérôme Mounyangi donc, Et si vous tapez son nom, Jérôme Munyangi, eh bien vous verrez que la première page de Google ne vous donne pas les plus grands médias américains ou francophones parlant de lui, anglophones ou francophones parlant de lui, ou du moins occidentaux, c'est le mot serait plus approprié. Vous verrez plus les médias africains parlant de ce monsieur, mais les médias occidentaux ou orientaux n'en parlent pas, alors que il a proposé une thérapeutique, un protocole révolutionnaire qui permettrait de se prémunir contre le coronavirus. Pas étonnant, vous voyez donc que c'est un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport de jeu de pouvoir que Madagascar a enclenché là, et il faudrait soutenir ce monsieur, pour, à savoir Jérôme Munyangi, pour pouvoir promouvoir la science africaine. Donc nous sommes ici vraiment dans un jeu de pouvoir, parce que si cette boisson ou ce médicament avait été produite sous d'autres cieux, vous pouvez vous rendre compte que tous les médias en auraient parlé. Mais comme ça vient de l'Afrique centrale, du moins par le professeur, le docteur Jérôme Munyangi, comme ça vient de la terre des léopards, comme ça vient du pays où l'os d'Ishango a été retrouvé, du pays où l'une des sources du Nil prend racine, et bien vous pouvez vous rendre compte que il y a ce combat entre le nord, le grand nord, et le sud. Et nous devons parfois voir ces choses-là avec un autre œil, avec une dimension beaucoup plus élevée que ce qu'il n'y paraît. Donc l'Afrique gagne, c'est l'Afrique qui gagne, l'Afrique contre-attaque avec le Covid organique, avec le docteur Jérôme Munyangi, avec le président de Madagascar, André Rajoelina. L'Afrique contre-attaque, et c'est beau à dire, c'est bien à dire. Et tout commence dans la tête, tout commence dans l'esprit. Quelle est votre volonté de pouvoir? C'est ce que vous devez vous demander aujourd'hui. Quelle est la volonté de pouvoir de l'Afrique? Que faites-vous pour lutter contre l'impuissance acquise? Que faites-vous pour développer votre volonté de pouvoir? Comment pouvoir retirer le pouvoir de ce que vous lisez, de votre environnement, des films, de votre entourage, de votre famille? Comment retirez-vous le pouvoir? C'est extrêmement important, car comme nous l'avons vu dans cette série d'émissions, eh bien le monde dans lequel vous vivez, lequel le monde dans lequel nous vivons, eh bien il a été construit, il a été designed afin de pouvoir enseigner l'impuissance à d'autres personnes, la manière dont l'enseignement, les religions sont imposées, implantées, ancrées, semées, cultivées, sont piégées avec la notion d'impuissance transmise, pour que ces peuples ne puissent pas se relever, ou du moins se regarder comme des personnes qui ont déjà perdu avant même que la bataille ait commencé. Donc Mountu Hotep, à la fin de la guerre, après avoir battu Merikare, eh ben va célébrer ce qu'on appelle le festival Sed, une grande fête qui va rassembler les différents peuples d'Égypte. Il va célébrer sa victoire, il va commémorer la mort des héros qui étaient tombés vaillamment, car il y a une tombe qui a été retrouvée avec 60 hommes, je pense, en Égypte, là, vers au milieu de l'Égypte, là, du temps de Mountu Hotep II, où les héros de cette bataille avaient été honorés avec le nom de leur roi. Mais bien plus tard, bien plus tard, quelques dynasties après, la 18e, nous sautons de la 11e à la 18e, il y a un autre roi qui fête un festival Sed, qui fête la commémoration aussi d'un grand roi qui était arrivé avant lui, ou plutôt elle, car oui, ce pharaon a une particularité, c'est une pharaone, mais qui se fait appeler pharaon, qui se dit roi. C'est une roi-reine. Elle est reine, mais elle se dit être roi. Et son nom, c'est Hatshepsut. Prochaine émission, Hatshepsut, la reine Hatshepsut, sa vie, son pouvoir. Bye bye, vie, durée et santé.